parlez-moi d'IA.
Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis un super ordinateur Carl, cerveau analytique de recherche et de liaison.
C'est une machine qui ressent les choses.
On nous raconte n'importe quoi sur l'IA.
Alors, qu'est-ce que tu en dis, Kit ?
Moi, je n'en dis rien du tout.
Et la créativité, elle reste du côté de l'humain.
Parlez-moi d'IA, présenté par Jean-Philippe Clément.
Bonjour à toutes et à tous. Que diriez-vous de vous accorder une parenthèse de 30 minutes ? Avec un super invité, pour interroger le phénomène intelligence artificielle sur ses aspects sociaux, culturels, éthiques, allez, un petit peu techniques quand même, et pourquoi pas politiques. Cette semaine, on va faire un état des lieux du déploiement de l'IA dans les collectivités locales. Votre commune, votre département, votre région utilise-t-elle désormais de l'IA pour mieux s'organiser et gérer le territoire, pour déployer de meilleures politiques publiques et, in fine, pour mieux servir les usagers ?
Cause Commune, 93.1 FM.
Vous êtes bien sur Cause Commune, la voix des possibles, la voix des communs. Merci à notre directeur d'antenne, Olivier Gréco, pour notre espace de liberté et d'échange à cette antenne. Cause Commune que vous pouvez retrouver sur le web, cause-commune-au-singulier.fm ou sur son app mobile, iPhone et Android, bien sûr, sur la FM 93.1 et le DAB+, votre podcast préféré, vous le retrouvez sur votre plateforme préférée. Cette émission vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à surtout mettre plein d'étoiles, de pouces bleus et de recommandations. C'est notre seule récompense et cela nous fait connaître car ça manipule les algorithmes. Et...
c'est cool de manipuler un algorithme. Vous écoutez, parlez-moi d'IA.
Dans l'émission, nous avons déjà abordé la question du comportement des collectivités territoriales face à la data science et l'IA. Mais c'était en saison 1. Et oui, je vous invite d'ailleurs à réécouter les émissions de Caroline Chopineau, parlez-moi d'IA 8, de Céline Colucci, la numéro 12, Victor Kahn, numéro 13, Hubert Béroche, numéro 19, et puis la double épisode de Samuel Guetta sur l'open data. Et enfin, on a aussi parlé de d'IA et de collectivité avec Juliette Fropier, avec l'IA frugale. Aujourd'hui, on a la chance de pouvoir faire un grand état des lieux fin 2024 sur la base du baromètre annuel de l'Observatoire du collectif Data Publica. Ce baromètre, il a l'avantage d'avoir un peu de recul puisqu'il existe depuis 2022. C'est donc sa troisième édition qui sort cette année. Nous avons une deuxième chance aussi, c'est que cette année, le baromètre, il a été doublé d'une étude auprès des Français pour mieux comprendre leur perception de l'IA vis-à-vis des collectivités, mais plus largement, et cela offre plein de perspectives et d'enseignements à l'écosystème, plein de perceptions vis-à-vis de l'IA globale. Data Publica, c'est un collectif d'entreprises et de coopératives très dynamiques qui accompagnent souvent les acteurs publics dans leurs démarches numériques, data ou IA. Ils produisent en plus du baromètre de nombreuses études qu'ils partagent sur leur site. On reviendra sur l'adresse du site, que je vous mets d'ailleurs en lien dans la description de cette émission. Notre invité, c'est l'un des membres de ce collectif. Il est lui-même à la tête du cabinet Civitéo. Il accompagne de nombreuses collectivités dans leurs projets. Le baromètre, il vient tout juste d'être dévoilé et nous avons la chance qu'il nous propose un décryptage exclusif de ces différents enseignements. Bonjour Jacques Priol.
Bonjour Jean-Philippe.
Merci d'être avec nous en studio matinal.
Eh oui, c'est tôt, mais c'est intéressant, on peut parler d'IA à n'importe quelle heure.
Super. Alors parlez-moi d'IA Jacques. Cette année, le baromètre a fait un bon quantitatif, puisque vous avez enregistré 300 réponses, donc du coup peut-être aussi un bon qualitatif. À quoi c'est dû d'après vous ce bon-là ? Pourquoi tout d'un coup les collectivités se mettent à répondre à ce baromètre plus que jamais ?
Alors ce baromètre, effectivement, comme vous l'avez dit, il a 3 ans, il s'installe progressivement dans le paysage des collectivités et des acteurs qui s'intéressent au sujet de la data et dorénavant donc de l'IA, de l'intelligence artificielle. La progression du nombre de répondants à notre enquête illustre la progression tout simplement de ce sujet. Dans le monde territorial, il y a une maturité de plus en plus importante sur les questions de data au service des politiques publiques, au service des politiques de gestion de l'eau, de l'énergie, de la circulation, et puis progressivement aussi une plus grande variété de collectivités qui s'intéressent au sujet. C'est l'un des enseignements majeurs de ce baromètre, c'est la confirmation, on le pressentait un petit peu en 2023, mais la confirmation que les sujets de la data et également de l'IA sont en train de devenir des préoccupations importantes dans des collectivités de toute taille. Ça ne concerne pas que les grandes agglomérations, les métropoles, mais aussi dorénavant des communes de taille moyenne, voire petite ou très petite. On fait de l'éclairage intelligent pour réduire les consommations énergétiques dans des communes de quelques milliers d'habitants. Et dorénavant, quand on fait de l'éclairage intelligent avec des capteurs, avec des systèmes de régulation, et il faut se poser la question de qu'est-ce qu'on fait des données. Et quand on a beaucoup de données, on se pose peut-être la question de savoir si on utilise de l'intelligence artificielle pour optimiser les systèmes.
Et finalement, les agents publics, ils sont comme tout le monde, ils en ont entendu beaucoup parler, de l'IA avec maintenant l'arrivée de l'IA générative. Et du coup, ils se sont repenchés finalement parfois sur le sujet de la data, de la data science, de l'IA. Et il y a eu une appétence qui s'est aussi créée chez eux tout simplement. Alors, en 2023, vous aviez enregistré, bon, alors, il y avait beaucoup moins de réponses, mais quasiment deux fois moins. Mais il y avait déjà 30% de collectivités qui disaient « Moi, je veux absolument déployer un projet IA, je suis en cours de déploiement. » Est-ce que ça s'est révélé finalement dans le courant de cette année 2024, le déploiement, les vrais projets? Est-ce que vous avez enregistré, vous, des projets IA particulièrement probants?
Alors oui, complètement. D'ailleurs, en un an, on s'est retrouvé dans une situation où il devient impossible de compter le nombre de projets en cours. En 2023, on avait estimé qu'il y avait probablement une cinquantaine de projets un peu solides, un peu sérieux. C'est pas simplement une intention ou la tentative d'utiliser ChatGPT ici ou là. Il s'agit bien de construire un système d'appropriation par une administration publique d'outils qui vont changer la manière de faire du service public. On en a aujourd'hui plusieurs centaines, c'est une évidence. On a aujourd'hui 36% des collectivités qui ont répondu à notre enquête, petite, moyenne et grande, qui ont déjà mis en test de façon organisée. Encore une fois, je ne parle pas du Shadow AI, de la tentative par tel ou tel collaborateur d'utiliser l'IA dans son
coin.
Ça existe partout, mais voilà, des vrais projets officiels. On a aujourd'hui 36% des communes, départements et régions qui en ont lancé, plus 15% qui nous déclarent, l'enquête a été administrée en juin-juillet 2024, vouloir dans les 12 prochains mois déployer des projets. Ça veut dire qu'on va avoir probablement une collectivité sur deux, de toute taille, j'y insiste, qui va se saisir des apport possible de l'IA. Donc ça, c'est complètement significatif. Le chiffre est assez important. Après, la variété des projets, la complexité des projets est tout à fait variable. Et puis, disons-le aussi très clairement, on va certainement y revenir au fil de notre échange, beaucoup de ces projets sont dans une étape, on va dire, de germination avancée. Ouais. C'est pas encore des choses qui sont en production et qui font partie de la gestion courante du service public local.
C'est l'époque, c'est les expérimentations pour commencer à prouver qu'il y a quelque chose à aller creuser derrière tout ça. On sait que derrière l'IA, c'est un mot un peu générique, c'est un peu un mot valise maintenant, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup finalement de types de projets. Vous avez justement mesuré quel type de projet les collectivités ont commencé à réaliser ?
Oui, et là, notre enquête nous permet d'identifier très précisément deux mouvements. Le premier mouvement, c'est que l'usage de la donnée, aujourd'hui, concerne tous les métiers de la gestion publique locale. Il y a quelques années en arrière, on parlait beaucoup de la ville intelligente, la ville connectée, la smart city. C'était essentiellement des données sur ce que moi j'appelle les grands métiers de flux qui produisent beaucoup de données, de l'énergie, de l'eau, des mobilités, des déchets. Et on voit qu'aujourd'hui, la data est utilisée dans plein de domaines. C'est aussi vrai sur les politiques sociales, sur la relation aux usagers, sur le tourisme, sur le développement économique. Bref, tous les métiers que ces services publics mettent en œuvre pour notre quotidien. Et s'il y a beaucoup de data, eh bien, il y a des potentiels et donc des promesses. Alors attention, peut-être on va y revenir, peut-être parfois des surpromesses, mais en tout cas des promesses que l'IA va nous permettre d'améliorer l'impact, d'optimiser la manière dont ces politiques publiques sont mises en œuvre. Et on constate notamment que sur la gestion interne du service public, le travail au quotidien des fonctionnaires, également dans la relation usager, on a des tentatives ou des tentations, j'allais dire, c'est sans doute un petit peu les deux d'ailleurs, d'utiliser l'IA. Par exemple, 29% des projets d'IA que nous avons identifiés concernent l'administration et la gestion interne. Il y a une explication à cela, c'est que il s'agit là de produire de la documentation, il s'agit là de produire des analyses, il y a beaucoup de culture de l'écrit dans la gestion du service public, et il faut y voir très clairement la conséquence de l'arrivée des IA génératives, qui représentent à elles seules plus de la moitié des projets que nous avons identifiés.
Finalement aussi dans le privé, l'IA sert à améliorer les process, sert à améliorer finalement l'administration générale des organisations. Donc c'est presque naturel que les administrations elles-mêmes se jettent sur ces produits-là et ces solutions-là pour...
Alors merci de le signaler Jean-Philippe, c'est un point qui est très important. Le service public n'est pas sous cloche. Les choses se diffusent aussi bien en matière de data qu'en matière d'IA dans notre société, et le service public n'est ni sous cloche ni d'ailleurs en retard. La rapidité avec laquelle aujourd'hui des administrations publiques locales, des mairies, des départements, des régions se saisissent de ces outils d'IA est à l'image de ce qui se passe dans notre société, à l'image de ce qui se passe dans le monde de l'entreprise en général. Souvent on dit le privé est en avance, ou plus précisément de façon un peu méprisante parfois, le public est en retard sur le privé. Aujourd'hui il y a des pans entiers du monde économique qui ne se sont pas saisis de ces sujets-là, alors que secteur public, lui, y va rapidement. Il y a plusieurs explications à cela. La première explication, c'est probablement que depuis une petite dizaine d'années, on a énormément digitalisé, énormément dématérialisé les procédures publiques. Et ça a pour conséquence, eh bien, que nos collectivités territoriales, elles se retrouvent à la tête d'un volume de données absolument colossal. Il y a immensément plus de données aujourd'hui à disposition des acteurs publics qu'il y a une dizaine d'années en arrière. Eh bien, ces données, lorsqu'on a des outils qui nous font la promesse de pouvoir les exploiter pour améliorer l'impact, améliorer l'efficacité des politiques publiques, lutter contre des difficultés de mise en œuvre ici ou là, eh bien, les acteurs publics, très naturellement, nos élus, les fonctionnaires, s'en saisissent parce que leur objectif, c'est bien que l'argent public soit bien dépensé et que les politiques soient efficaces.
Et pour bien faire comprendre, est-ce que vous pourriez nous donner, alors, par exemple, le ministère de l'écologie a mis en œuvre des appels à projets, démonstrateurs d'IA frugales sur les territoires. Et donc, ça a emmené les territoires à se positionner et à creuser ces sujets-là. Pour être concret, est-ce que vous pourriez nous citer deux projets ou un projet vraiment emblématique pour qu'on voit à quel point, quand même, c'est ancré dans quelque chose d'innovant et dans le cœur de métier, finalement, des collectivités, les projets qui sont déployés?
Alors, je vais vous en citer deux. Et là, vous allez voir, on est très loin de ChatGPT pour produire un courrier ou le discours d'inauguration d'un élu, comme on a pu le voir aussi par ailleurs. Le premier, c'est sur le plateau de Saclay, au sud de Paris. L'agglomération de Paris-Saclay est en train de développer, c'est un projet qui va prendre trois ans, un projet qui s'appelle UrbaIA, qui vise à modéliser par intelligence artificielle l'impact sur l'environnement, sur la biodiversité, sur la qualité de vie, sur les mobilités et les déplacements, des décisions d'urbanisme qui vont être prises aujourd'hui. C'est des systèmes extrêmement complexes, adossés à un jumeau numérique. Ils travaillent avec des laboratoires de recherche. Alors, l'agglomération de Paris-Saclay, ils ont le plateau de Saclay sur place.
Ils ont un peu de main d'œuvre.
Ils ont un pôle de compétences mondiales à portée de main, mais ils travaillent aussi avec des industriels, avec des startups. Quelque part, ce genre de projet, c'est le travail qu'aujourd'hui peuvent faire parfois des bureaux d'études et des agences d'urbanisme qui construisent des modèles d'urbanisme. Et bien là, avec l'IA, on va pouvoir produire énormément de scénarios, on va pouvoir faire bouger énormément de paramètres, intégrer beaucoup plus de données que ce qu'on faisait précédemment. Dans un autre domaine, sur le Val-de-Loire, la région Centre-Val-de-Loire a créé un espace de partage de données qui s'appelle le Climate Data Hub. C'est un espace dans lequel une trentaine d'acteurs publics et privés peuvent mettre en commun des données pour travailler sur le changement climatique. Et bien, dans cet espace, ils ont choisi d'utiliser l'IA pour modéliser les problématiques de ressources en eau sur l'un des bassins versants de la Loire. Il s'agit d'essayer de beaucoup mieux comprendre que ce que nous pouvons faire aujourd'hui, les problématiques d'anticipation, de sécheresse et également de dégradation de la qualité de l'eau. Donc ça, c'est des outils qui vont probablement changer la manière dont on construit des politiques publiques.
Et on le voit, en fait, parce que vous l'évoquez, c'est des produits et des solutions de modélisation, beaucoup, de territoires. C'est un peu le retour du jumeau numérique, parce que le jumeau numérique, pendant quelques années en arrière, il était très communicationnel. C'est-à-dire qu'on faisait le jumeau numérique pour pouvoir l'afficher sur les salons, on faisait tourner des flux, on faisait tourner des données, mais il n'avait pas de vocation concrète. Là, on est sur des jumeaux numériques qui, a priori, vont aller travailler un sujet.
Alors, le mot jumeau numérique, c'est vrai qu'on l'a un petit peu mis à toutes les sauces. C'était des belles maquettes 3D, ça sert à présenter un projet immobilier d'un côté, mais c'est aussi le fait de rassembler quelque part, et le plus souvent sur une carte. On parle de gestion des territoires, donc il y a de la cartographie. Toutes les données dont on dispose, c'est une manière de rassembler toutes les données pour ensuite, grâce à l'intelligence artificielle notamment, parce qu'on utilise aussi plein d'autres techniques sans IA, faire des modèles, faire des anticipations, préparer les décisions et les arbitrages politiques, parce que c'est aussi ça qu'on attend de nos élus et des collectivités.
Ce que montre l'étude aussi, c'est que finalement, si vous le disiez, c'est que toutes les collectivités sont concernées. Il n'y a plus de taille quoi, pour faire de l'IA. Il y a une sorte de démocratisation via la numérisation et via l'IA des possibilités et des solutions.
Alors, l'IA, en 18 mois, a bouleversé nos schémas de compréhension de la manière dont l'innovation numérique se diffuse dans le secteur public. Les innovations numériques précédentes, je l'ai évoqué tout à l'heure très rapidement, c'est les sujets de Smart City, ville intelligente, ça a mis 6 ou 7 ans à se diffuser parce que les investissements étaient très importants, parce que les systèmes technologiques utilisés pour faire de l'éclairage intelligent, pour optimiser la gestion des déchets, pour réduire les difficultés de gestion des réseaux d'eau étaient des systèmes extrêmement coûteux qui étaient réservés aux grandes métropoles. Et au bout de 6 ou 7 ans, les prix ont chuté, les technologies se sont diffusées, démocratisées, et des communes moyennes, puis maintenant petites, les utilisent. Avec l'IA, ça se passe pas du tout comme ça. Parce que une IA générative, Le maire d'une commune de 500 habitants, il peut s'en saisir tout seul. Et on a des témoignages d'élus qui nous disent « Mais moi, c'est extraordinaire, avec ce genre d'outils, je démarre tout de suite. Quelque part, j'ai même plus besoin d'un fonctionnaire. » C'est un peu caricatural et évidemment, ça ne se passe pas comme ça. En réalité, on pourra y revenir si vous souhaitez. Mais très concrètement, l'IA provoque de l'innovation et de l'appétence pour les sujets autour de la data et de l'innovation numérique dans toutes les strates de collectivité de façon quasi simultanée.
Mais vous l'évoquez, donc on va rentrer dans le sujet. Finalement, est-ce que du coup les agents publics ont une crainte à avoir de ces nouveaux outils? Comment les collectivités abordent ce sujet-là vis-à-vis de leurs agents, vis-à-vis de leurs compétences? C'est quoi la vision d'une collectivité aujourd'hui avec ces outils-là et ces ressources humaines, ces agents?
Alors là, je vais prendre un tout petit peu ma casquette de président d'un cabinet qui accompagne des collectivités pionnières sur ce sujet. Moi, je dirais d'abord que les collectivités, elles se saisissent du sujet de façon sérieuse, de façon pragmatique. Elles ne croient pas nécessairement à des promesses, parfois quelques fanfaronnades, laissant penser que grâce à l'IA, on va pouvoir demain matin supprimer 100 000 emplois dans la fonction publique territoriale pour équilibrer les comptes publics. Ça ne se passera pas comme ça. Et d'ailleurs, les Français ne le souhaitent pas. Le sondage que nous avons réalisé avec notre partenaire Ipsos montre très clairement que, contrairement peut-être à des idées rapidement lancées, les Français préfèrent parfois attendre les horaires d'ouverture du guichet, mais s'adresser à un fonctionnaire en chair et en os pour avoir des informations, plutôt que de discuter avec un chatbot alimenté par de l'IA, fût-il disponible 24 heures sur 24. Ceci étant dit, aujourd'hui, évidemment, les métiers de l'action publique territoriale vont être et ont commencé à être impactés par l'intelligence artificielle, comme dans le monde de l'entreprise. Mais on est un petit peu revenu de ces fantasmes qui avaient été claironnés il y a 2 ou 3 ans en arrière, selon lesquels des milliers d'emplois allaient être supprimés par l'IA. On constate surtout qu'il faut former les fonctionnaires pour qu'ils puissent, comme les agents, comme les acteurs économiques, comme les salariés des entreprises du privé, pour qu'ils puissent s'approprier le meilleur de ce que ces intelligences artificielles peuvent leur apporter pour traiter des données, pour pouvoir préparer la production de la documentation qu'ils ont à produire, pour pouvoir analyser des situations. Il faut donc les former et on voit déjà quelques collectivités territoriales s'engager dans des plans de formation très importants dans lesquels on forme tous les agents publics à l'intelligence artificielle, les cadres dirigeants, les catégories A, comme on dit dans la fonction publique, mais aussi les catégories B, les catégories C, les agents d'accueil qui sont tous les matins au guichet des mairies, qui peut-être demain et certainement après-demain auront une interface avec de l'intelligence artificielle sur leur ordinateur
pour faciliter
pouvoir
les réponses.
Répondre effectivement aux sollicitations de nos concitoyens.
Et du coup, les collectivités, donc elles forment leurs agents, mais est-ce qu'elles travaillent pas aussi de plus en plus avec leurs habitants? Je crois que vous avez participé à plusieurs, démarches sur les territoires comme Montpellier par exemple ou comme Nantes, me semble-t-il, où il y a eu une espèce de construction, de réflexion collective sur l'usage de l'IA. Qu'est-ce que vous pouvez en dire aujourd'hui? On en est où de ces réflexions avec les habitants, les citoyens?
Ah oui, effectivement, il y a Nantes, il y a Montpellier, il y a un nombre assez conséquent de métropoles qui engagent des espaces, des lieux de débat, de discussion avec les habitants sur ce sujet. Je m'arrête, puisque vous me tendez la perche, une seconde sur l'expérience de Montpellier, qui a été le premier territoire à engager une véritable convention citoyenne avec 40 citoyens tirés au sort pour leur poser une question assez simple. C'est « Et vous ?» Qu'est-ce que vous penseriez que le service public peut faire de l'intelligence artificielle et dans quelles conditions vous trouveriez ça en tant que citoyen positif? Alors, intéressant, parce qu'un panel de 40 citoyens tirés au sort, autant vous dire qu'il y en avait 38 ou 39 qui ne savaient pas ce qu'était l'intelligence artificielle. Donc ça a été un travail remarquable sur plusieurs week-ends. Ils ont été mobilisés sur plusieurs week-ends. Ils ont été formés par nous-mêmes, par Cédric Villani, par d'autres experts qui sont intervenus sur qu'est-ce que c'est que l'IA. Et ensuite, on a creusé avec eux les conditions dans lesquelles ils estimeraient en tant que citoyens recevables que le service public, eh bien, après tout, utilise les mêmes outils qu'Elon Musk et les autres.
Parlons-en.
Voilà. Et la réponse de ces citoyens, qui est en ligne, qui est tout à fait publique, disponible sur le site de la métropole de Montpellier, est extrêmement intéressante parce qu'ils nous disent l'IA, ça présente plein d'écueils. L'IA, ça peut faire des erreurs, il y a des biais, il peut y avoir de la discrimination. L'IA, ça consomme beaucoup d'énergie, ça peut avoir un impact tout à fait délétère d'un point de vue bilan carbone. L'IA, c'est compliqué parce que aujourd'hui beaucoup de modèles sont proposés par des entreprises américaines, des entreprises chinoises, je caricature un petit peu, mais c'est et puis l'IA, c'est très compliqué à expliquer. Donc nous, en tant que citoyens, on accepte et même on souhaite que ces outils soient utilisés par le pouvoir public sous certaines conditions. Parmi ces conditions, il y a le fait de vérifier que les IA soient vraiment utiles, qu'elles apportent un vrai plus. Je le dis souvent dans nos interventions, des IA qui marchent mais qui ne servent à rien, il y en a plein. Ce qui compte, c'est celles qui vont vraiment changer la donne en termes de compréhension, par exemple des déplacements et des mobilités, par exemple de réduction d'économies, pour faire des économies d'énergie, etc. La deuxième condition, c'est que le service public conserve le contrôle des IA. C'est qu'on sache quelles sont les données qui sont utilisées pour faire l'entraînement, qu'on soit capable de superviser la façon dont l'IA fonctionne et qu'à aucun moment il n'y ait de risque de discrimination, d'erreur, parce que c'est du service public et ça, je crois que c'est tout à fait essentiel. Puis la troisième chose, parmi quelques autres, qui a été proposée par les citoyens de Montpellier, et ce qui est très intéressant, c'est que la métropole de Montpellier a repris la balle au bon et s'est engagée à le mettre en place.
Oui, on remettra le lien de tout ça sur la description de l'émission. Ouais.
Ils ont décidé de créer un comité métropolitain de l'intelligence artificielle dans lequel les citoyens vont être représentés. Et ça, c'est une grande première aussi en France. Et nous allons observer avec grande attention la façon dont ce collectif va pouvoir fonctionner.
Non, c'est une vraie réussite, cette concertation. On était au début, hein, encore une fois, on a interviewé Victor Kahn dans le Parle-moi d'IA numéro 13 qui démarrait la consultation. Et on voit bien qu'elle a porté beaucoup de fruits concrets, in fine. Je voulais aussi vous interroger sur le... Vous avez vu beaucoup de projets passer sur l'IA. Là, avec l'Observatoire, c'est aussi une formidable tour de contrôle de tout ce qui se passe sur l'IA. Et vous avez, à votre niveau, créer une grille d'analyse des projets d'intérêt qui utilisent de l'IA pour les collectivités. Comment elle fonctionne, cette grille d'analyse, et à quoi elle sert en fait ?
Alors cette grille, on l'a construite avec des collectivités. On s'est posé la question, tiens, on a telle idée, des idées. On a recensé 250 projets aujourd'hui qui sont en cours de test, de pré-test pour certains, de pré-production, avec beaucoup de données, beaucoup d'IA. Et on s'est posé la question de comment on décide, face à ce foisonnement d'idées, quels sont les projets qu'on met en portefeuille ? Il faut qu'il y ait des équipes qui gèrent les projets.
Sur quoi on part, quoi ?
Sur quoi on part ? Par quoi on commence ? Et on a construit avec eux, avec ces agents publics, avec ces élus, une grille qui est sur 4 axes principaux. Après, ça se détaille en sous-domaines, mais il y a 4 axes principaux. Le premier, c'est l'utilité. J'y reviens à ce que nous disaient les citoyens. C'est que utiliser des IA pour faire de l'IA, céder à la mode, ça peut être rigolo 5 minutes, ça peut être sympa en termes de communication, puis après tout, ça peut être un vecteur d'attractivité, de marketing du territoire. C'est pas un vilain mot, ça a été mon métier dans une autre vie. Mais ça ne suffit pas.
Utilité qu'on retrouve dans l'IA frugale, par exemple, c'est la première question à se poser. Est-ce que c'est utile ou pas ? Et puis, ça permet justement d'économiser le côté énergivore, consommateur de ressources.
C'est le deuxième axe, justement. Mmh. C'est la dimension IA frugale, c'est-à-dire est-ce que l'impact carbone du système qu'on va utiliser, et on a aujourd'hui des outils de mesure, est-ce que le jeu en vaut la chandelle ? S'il s'agit de cramer, entre guillemets, énormément d'énergie pour un système qui permet en retour, par exemple, de faire beaucoup d'économies d'eau, eh bien, on fait la balance, on regarde si ça vaut le coup ou pas. Si c'est vraiment pas le cas, on abandonne. Et il y a aujourd'hui des systèmes qui sont gravement énergivores, scandaleusement énergivores, je le dis aussi, et il faut quand même en avoir tout à fait conscience. Le troisième axe, c'est l'impact sur les métiers qui accompagnent nos concitoyens, les métiers des agents publics.
On y revient.
Les IA capacitantes. Ce terme de capacitante qu'on va opposer un petit peu à cette idée reçue que les IA vont juste purement et simplement remplacer des emplois, c'est comment l'IA améliore la capacité des agents publics à être à l'écoute, à l'accueil, en accompagnement de la population. Et puis, le dernier point qui n'est pas le moins important, c'est les IA de confiance. Comment est-ce que quand on est un service public, on peut apporter la garantie à nos concitoyens, aux usagers, que le système qu'on va déployer ne va pas générer des biais, ne va pas faire des erreurs, ne va pas transférer des données publiques qui nous appartiennent, qui sont un patrimoine commun, vers des opérateurs étrangers, vers des entreprises privées qui en auraient d'autres usages. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas simple à gérer aujourd'hui, parce que la plupart des solutions d'intelligence artificielle qui sont proposées, et actuellement il y a énormément de démarches commerciales auprès des acteurs publics comme des acteurs privés au demeurant, eh bien beaucoup d'entre elles ne présentent pas beaucoup de garanties en la matière.
Moi je trouve que cette grille elle marche très bien pour les collectivités territoriales, mais elle pourrait aussi très très bien marcher pour les entreprises, non ? J'ai l'impression que quand même...
Désolée de vous couper, j'ai une question pour l'invité.
Oui, Elisa. Donc Jacques, vous connaissez Elisa ? Elle nous écoute depuis le début de l'émission et du coup, elle a une question pour vous. Alors, oui, Elisa, quelle est votre question ?
Par quel usage de l'IA devrions-nous commencer au travail ?
Ah, ouais, elle revient un peu sur le côté capacitant et le côté finalement agent public, qu'est-ce qu'ils doivent faire? On commencerait dans les collectivités territoriales pour utiliser l'IA au travail? C'est une question difficile quand même ça.
Alors moi je vais faire une réponse qui à mon avis est valable aussi bien dans le public que dans le privé.
Ouais.
C'est que aujourd'hui, il y a beaucoup de promesses autour de l'IA, peut-être même des surpromesses. Hein. On commence à en revenir un petit peu de ce qui se disait il y a 18 mois, 2 ans. Et en même temps, des perspectives formidables. Donc, il faut faire le tri, il faut faire le choix et retenir les systèmes qui ont le plus d'impact. Et pour faire ce tri, il faut se rendre compte de ce qui marche et de ce qui ne marche pas. Dans l'innovation numérique, depuis 10 ans, 15 ans, on vend ce qu'on appelle des quick wins, des succès rapides, des succès probants. En matière d'IA, moi, je préconise plutôt de rechercher les fail fast.
Ah.
Essayer tout un tas de petites choses, mais rapidement, sans y passer trop de temps, trop d'énergie, ne pas avoir peur de se tromper, le droit à l'erreur, et se rendre compte que sur tel et tel système, ok, la promesse était très belle, mais en fait, pour que ça marche, il faut énormément de données, et ces données, soit je les ai pas, soit elles sont pas orchestrées, classées, disponibles dans les bons formats dont on a besoin. Allez, on passe à autre chose. Le temps de s'approprier la manière dont ces systèmes qui sont complexes vont avoir un impact sur l'action publique.
Donc, y aller, essayer, tenter d'avancer avec tout ça. Et du coup, à côté de l'observatoire, à côté du baromètre, vous avez fait une étude auprès des Français. Alors ça, c'est très intéressant parce que du coup, c'est rare d'avoir l'avis des Français sur l'IA à l'heure actuelle. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit, les Français, vis-à-vis de tout ça?
Oui, on a effectivement souhaité, avec notre partenaire Ipsos, mettre en miroir les pratiques qui sont en train d'exploser dans le monde des collectivités locales avec l'avis de nos concitoyens. Ça intéresse tout le monde, ça nous intéresse.
Clairement.
Ça intéresse aussi les élus, éventuellement.
L'écosystème, globalement.
L'écosystème. Alors, les Français, ils nous disent deux choses. La première chose, c'est que, globalement, il y a une vraie inquiétude sur la place aujourd'hui de la data et de l'IA dans notre société. Et cette inquiétude, on le mesure année après année, elle augmente. La faute, sans doute, y compris aux promoteurs de ces systèmes d'IA. On parlait d'Elon Musk tout à l'heure.
Oui, on va en parler longtemps d'Elon Musk, effectivement.
Effectivement, ouais. On peut penser à Sam Altman d'OpenAI, on peut penser à tous ces dirigeants de ces grands modèles d'intelligence artificielle qui n'ont de cesse que de faire parler d'eux, y compris parfois de faire parler d'eux en disant il y a des menaces, l'IA peut devenir autonome, etc. De toute façon, plus on parle d'eux, plus leur capitalisation boursière augmente, que ce soit en bien ou en mal, sauf que ces gens-là aussi génèrent de l'inquiétude. Donc les Français sont inquiets et sont beaucoup plus inquiets aujourd'hui qu'il y a 2 ans. On avait fait le même baromètre il y a 2 ans. Beaucoup plus inquiets aujourd'hui concernant l'IA qu'ils ne l'étaient auparavant. En revanche, ils sont confiants dans l'usage raisonnable et raisonné que les acteurs publics peuvent en faire. Et ça, c'est un point très important de notre enquête, que ce soit sur la data ou sur l'IA. Les Français font confiance dans le service public sur le fait que quand on est aujourd'hui dans une mairie, eh bien, les données vont pas être revendues, utilisées pour l'autre chose, qu'on va utiliser des IA qui vont permettre d'améliorer l'efficacité, eh bien, de la santé, l'efficacité de la gestion énergétique, et qu'on ne fait pas du tout de procès d'intention au secteur public. C'est une caractéristique assez française. On a des études similaires dans d'autres pays où on n'a pas confiance dans les acteurs publics. Je pense aux États-Unis notamment. Mmh. Mais en France, on a par exemple 66% des Français qui ont tout à fait confiance dans la manière dont leur communes et leur intercommunalité peuvent gérer de la data, à mettre en face de seulement 17 ou 18% de confiance vis-à-vis des géants du numérique à qui, par ailleurs, on laisse toutes nos données. Mais ça, c'est une autre histoire.
Oui, et d'ailleurs, on le voit bien, il y a un passé qui rentre en ligne de compte du point de vue des collectivités territoriales, parce qu'ils ont depuis très très longtemps finalement géré cette sensibilité des données avec une culture de liaison avec la CNIL, avec bien sûr l'application du RGPD. Alors, c'est valable aussi pour le secteur privé, mais pour le coup, dans le secteur public, alors là, on est vraiment à cheval sur la manière de gérer le RGPD. Y a un avantage, vous pensez, pour le secteur public, dans cette maîtrise finalement des questions réglementaires, de cette maîtrise des questions juridiques, dans cette maîtrise de la façon d'aborder un peu le droit face à l'IA?
Oui, parce que, en fait, les collectivités qui ont le plus cheminé sur ce sujet n'ont pas géré les questions juridiques que comme la mise en conformité juridique. Ils en ont fait un levier de confiance, un levier de politique publique. On voit émerger des politiques publiques de la donnée et de l'intelligence artificielle. On parlait de Montpellier tout à l'heure, Montpellier Métropole. Les élus de Montpellier viennent de voter une politique de la donnée et de l'IA. Et les obligations de protection de la vie privée, vous avez raison, c'est le RGPD, mais c'est aussi une volonté affichée de dire quand on est un service public, une mairie, c'est pas Facebook, on fait pas n'importe quoi avec les données, on va utiliser les données qui nous sont utiles pour améliorer les politiques de transport, les politiques énergétiques, les politiques de gestion des déchets, mais on va prendre grand soin des données de nos habitants et de nos concitoyens.
Merci beaucoup Jacques Priol du cabinet Civitéo et du collectif Data Publica d'être venu nous présenter cette étude dont on va retrouver le lien observatoire.data-publica.eu en description de cet épisode. Merci pour tous ces partages.
Merci beaucoup Jean-Philippe.
Et n'oubliez pas de liker cet épisode parce que ça manipule les algorithmes et c'est cool de manipuler les algorithmes. Restez sur 93.1 FM sur Cause Commune. Cause Commune, ce n'est pas que parlez-moi d'IA. N'hésitez pas à aiguiser votre curiosité sur causecommune.fm et découvrir nos autres programmes. Et à bientôt.